Vous êtes toujours dans Remue-Ménage, Homme Femme, Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de trois femmes avec qui nous discutons de médecine traditionnelle africaine, en compagnie d'Hermine Meidou, de Betty Chambing-Fegué et de Marie-Noëlle Andersen, qui toutes trois, par leur pratique, ont quelque chose de très concret à nous faire partager au niveau de ce qu'est la médecine traditionnelle africaine. Rappelons peut-être aussi que disons le prétexte, il faut souvent trouver un prétexte à notre rencontre. C'est un symposium qui a lieu en ce moment, puisqu'il a commencé hier et jusqu'au 3 mai, sur le thème médecine et art en Afrique, et qui donc aborde toutes ces questions-là. Ce symposium que vous pouvez suivre à la maison de quartier du Petit Saconnet, la Villa du Toit. Je ne sais pas, Marie-Noëlle, Hermine ou Betty, si les gens peuvent suivre ces rencontres comme ça, informellement, ou bien s'il faut s'inscrire, s'il faut... Je ne sais pas quoi, Hermine.
C'est ouvert au public. Bien sûr qu'on peut payer pour, qu'on doit payer pour les conférences, mais autrement, il y a les expositions, les démonstrations, des films, et là, c'est gratuit.
D'accord. Alors, nous redonnerons peut-être quelques rendez-vous à la fin de notre discussion d'aujourd'hui qui, vraiment, on venait de se le dire pendant que nous écoutions cette musique interprétée par Mazekela et qui est écrite à l'origine par Myriam Makeba, que nous avons l'impression que le temps file à la vitesse grand V et que nous effleurons, nous abordons certains thèmes et que ça nécessiterait un approfondissement. Et nous venons de prendre la décision que nous continuerons les mercredis qu'il faudra pour approfondir un certain nombre de questions que nous aurons abordées aujourd'hui. Donc on peut se dire déjà que nous aurons rendez-vous avec nos trois invités déjà mercredi prochain pour continuer à creuser. Enfin, on verra les dates plus précisément, mais ça pourrait déjà être éventuellement dans un mercredi très proche, histoire que vous gardiez le contact avec nous, ce que nous venons de dire aujourd'hui. Alors, dans cette dernière partie de notre émission, nous aimerions bien sûr aborder, alors cette fois-ci, ce qui était notre question de départ, est-ce qu'il y a une chance que médecine traditionnelle africaine et médecine occidentale se rencontrent et se renforcent l'une l'autre, y gagnent l'une l'autre à cette rencontre ? Cette question paraît d'autant plus importante à un moment où, il ne faut pas se le cacher, ici en Occident et peut-être en Suisse en particulier, puisque nous sommes concernés par cela et en France voisine, etc., avec tous les problèmes qu'il y a autour de quelle médecine avons-nous à disposition et surtout comment fonctionnent les systèmes d'assurance, etc., qui paraissent nous offrir des soins de plus en plus limités avec... toujours plus cher et qui pose les problèmes d'accès à la santé, même pour nous qui sommes pourtant des pays très riches. Et qu'est-ce que cela veut dire par rapport à des pays qui font partie de ce continent africain où nous, on a tendance à leur dire apparemment, nous savons, nous avons la science, nous pouvons vous guérir, alors que visiblement, ils se guérissaient depuis bien avant la médecine occidentale. N'est-ce pas, Marie-Noëlle ?
Absolument, oui. On peut dire que j'ai toujours Hippocrate, c'était un bébé en fait, parce qu'il est là depuis 2500 ans à peine, tandis que la médecine en Afrique, elle était pratiquée déjà il y a 4500 ans environ, telle qu'elle l'est aujourd'hui. Donc c'est une connaissance ancienne qui a vraiment fait ses preuves. Je crois que c'est important. Justement, c'est tout cet esprit holistique de cette médecine africaine, puisqu'on a vu que toute la communauté était concernée quand il y a cas de maladie ou de problème. Et c'est donc un terme qui est très à la mode aujourd'hui en Occident. On fait même des cours de management holistique, ai-je entendu. je trouve que c'est important de souligner que cette médecine africaine traditionnelle, comme la médecine chamanique justement en général, est... à cette qualité holistique. C'est un aspect fondamental.
Alors, je pense qu'il serait bon qu'on précise un petit peu comment cette rencontre serait possible, si on essaie de l'envisager. Oui,
oui, donc j'ai peut-être mentionné, je crois, au début de l'émission, que j'avais participé à une rencontre aux 10 ans d'anniversaire d'une clinique à Bulawayo, au Zimbabwe, qui réunit sous le même toit la médecine occidentale et la médecine traditionnelle, la médecine des guérisseurs. Et c'est donc effectivement une expérience qui dure, puisqu'il y a bien plus que 10 ans maintenant. Et non seulement elle dure, elle tient le coup, mais elle s'est en plus agrandie, puisqu'il y a des dispensaires maintenant un petit peu dans la brousse, dans les régions de campagne, et aussi une maternité. Enfin bref, c'est quelque chose qui fonctionne. Et je crois que c'est très encourageant. Il faut vraiment le souligner et le dire. Ici, dans ma pratique à Genève, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs médecins, des médecins de tous bords, des médecins très ouverts, il faut le dire, parce que c'est clair qu'on est souvent assez critique à l'égard de la médecine occidentale, mais il y a des gens très ouverts et qui ne demandent qu'à s'intéresser, à comprendre mieux et à pratiquer chacun à sa façon. Il y a peut-être certains pièges parce que avec la médecine, l'approche holistique, on va aller regarder la cause profonde. Donc en Afrique, un virus ne va jamais être une cause de maladie, c'est bien clair. C'est justement un déséquilibre, une désharmonie, une transgression, un problème de jalousie, comme le disait Hermine tout à l'heure, qui sont les causes réelles des maladies. Alors quand un médecin vous dit, mais de toute façon ici aussi on cherche la cause, c'est vrai aussi, mais simplement que les paramètres dont on tient compte sont fondamentalement différents. Et ça, je crois que c'est important aussi de le souligner. Mais si je peux juste dire dans ma pratique ici à Genève, ce qui est intéressant d'observer, c'est que par le fait, je pense que dans notre mémoire, nous avons quand même quelque part un certain souvenir, même très très lointain, avec ces approches-là. Lorsque on a une conscience de cette unité, et de cette multiplicité, et de cette interaction entre le visible et l'invisible, si on utilise peut-être une forme qui peut être entendue et reçue en Occident, donc comme je le disais, on ne va pas aller demander à quelqu'un ici d'aller égorger un mouton ou un poulet, parce que je crois que ce serait assez mal reçu, mais il y a d'autres façons de faire une offrande, de faire un sacrifice pour se remettre en harmonie avec ces énergies qui nous entourent.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, Marie-Noëlle, d'une rencontre avec quelqu'un qui s'est adressé à vous et qu'est-ce que vous lui avez proposé, qu'on comprenne mieux ce que ça veut dire?
Oui, bon, par exemple, un cas tout à fait classique, bon, ce sont les femmes qui, de génération en génération, étaient toujours la femme au foyer, par exemple. Et aujourd'hui, bon, elles ont envie de travailler, elles ont envie de faire un business, elles ont envie d'être indépendantes. Mais on a dans nos cellules mémoire précisément ce souvenir d'un interdit sur cette indépendance. Et il va falloir pacifier en quelque sorte ses ancêtres. Et on va parler de lignée génétique chez nous où il y a un programme inscrit dans notre bio-ordinateur qui fait que certains comportements passent et d'autres sont bloqués. Donc des nouveaux comportements sont bloqués. Donc on va travailler en méditation active, on va travailler avec différentes techniques pour changer le programme en quelque sorte et concrétiser cela avec un acte symbolique. Parce que l'acte symbolique aura valeur de rituel. Et le rituel permet de relier justement la dimension du sacré avec le matériel. Et là, on retrouve l'harmonie.
Betty, vous nous racontiez tout à l'heure que vous aviez proposé, entre autres ici, des massages pour bébés. Vous nous avez expliqué comment vous en êtes arrivée à cela. Et vous disiez que certaines personnes à l'école des parents avaient accepté quand même de vous confier leurs enfants. Oui. Est-ce que vous avez la sensation que le contact avec le corps, depuis le tout petit bébé, c'est une chose qui nous manque beaucoup dans notre culture et que vous faites vraiment faire un pas différent à ces familles? Parce que je crois qu'il faut peut-être, comme vous le disiez, il faut tenir compte, papa, maman, l'enfant, tout le monde est là réuni.
Tout le monde est là réuni et puis je dois dire que ça n'a pas été facile pour moi, mais avec l'aide de l'école des parents, on a su me mettre vraiment en contact avec les mamans d'abord, parce qu'il faut commencer par là, si la maman accepte que moi, je m'occupe de son bébé. En fait, moi, j'anime dans ces groupes, j'apprends aux mamans à masser leur bébé, parce que ça doit être continué à la maison, pour continuer à la maison, c'est nécessaire. Parce que moi, je les vois une fois par semaine, mais la maman est constamment avec son bébé, et puis c'est l'interaction doit se faire entre la maman et le bébé, et le père aussi. Donc, le couple, les parents doivent continuer à masser le bébé parce que c'est important. Le contact, le toucher est quand même le premier sens. Alors, parce qu'à la naissance, le bébé qui reçoit un choc à la naissance est déjà accueilli par les mains. Alors, donc c'est important pour un bébé d'avoir ces massages-là pour son évolution, aussi bien au niveau émotionnel, physique, psychique. Donc, et puis, il ne faut pas oublier que le massage des bébés, c'est déjà avant tout un contact d'amour, parce que même en massant un bébé, si on ne l'aime pas ou on ne le fait pas dans un climat d'amour et de confiance, ça ne passe pas du tout. Donc, il faut vraiment être à l'écoute parce qu'il faut respecter le bébé. Il ne faut pas le masser quand il n'a pas envie, parce qu'il va se manifester et puis il fait comprendre qu'il n'a pas envie qu'on le touche. Donc, il ne faut pas insister et donc respecter le bébé, même pas forcément parce que ça lui fait du bien qu'il faut le lui faire. Non, parce qu'il va dire qu'il n'a pas envie, plusieurs manières, en poussant des cris ou vraiment carrément dire que je ne veux pas. J'ai eu beaucoup de cas à l'école des parents que les enfants n'étaient pas du tout prêts. Parce qu'on leur impose un certain horaire, par exemple, si je dis à 10 heures, un enfant qui n'est pas du tout réveillé, il est affamé, et puis il se trouve là avec les autres enfants, il n'a pas du tout envie d'être là, et il se met à crier. Ça perturbe le cours et tout, mais enfin, on a respecté ses envies, et donc la maman comprend qu'il faut rentrer à la maison, ou je leur dis, bon, il faut lui donner à manger, ou il faut assister au cours comme ça. Mais on a des tas de manifestations de leur part. C'est pour dire que l'enfant n'est pas toujours là au moment où on a besoin de le masser. Il faut comprendre ça, le respecter, parce que c'est pour son bien-être. Et donc, je crois qu'il faut continuer et ça lui fait du bien à tous les niveaux.
Betty, j'ai vu une fois un film sur les massages d'enfants africains. C'était en Afrique et je me souviens d'une image qui m'avait beaucoup impressionnée où la maman tenait son enfant sous la tête, mais vraiment suspendue. C'est difficile d'imaginer ça pour la radio, mais elle mettait ses mains juste sous le menton et la tête et l'enfant était suspendu. On avait l'impression que le cou s'allongeait beaucoup.
Ah oui.
Ou bien visiblement, je me disais, mais pour des mères de chez nous, il faudra d'abord vaincre leur appréhension de casser leur bébé en mille morceaux. Donc un autre rapport aussi au corps. Et donc, il y a cette rencontre-là aussi. Il faut que les mères vainquent cette sensation que leur enfant est quelque chose qui se casse. Parce que chez nous, un bébé, c'est quelque chose d'extrêmement fragile.
Mais oui, moi, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que chaque personne donne ce qu'on peut donner. Moi, j'ai donc acquis cet art traditionnel. Je ne le fais pas comme nos grands-mamans parce que je l'ai modernisé, vu que j'ai suivi un cours avant. Donc, mon massage est très doux. Ça n'a rien à voir avec le massage africain où on martyrise un enfant. Je suis contre parce qu'un bébé a besoin d'être vraiment, c'est quelque chose, un geste d'amour. Moi, franchement, mes massages sont doux. Et l'enfant, quand il est réceptif, on peut le masser pendant une heure. Mais il prend son pied. Ça, je ne veux pas le...
Parce que je me dis... L'expression vient de chez nous. Betty,
justement, j'ai... En Occident, il faut dire des choses comme ça et puis le vivre. Et je me dis qu'un enfant qui a besoin de recevoir autant d'amour par le massage, pourquoi commencer à lui faire subir des gestes forts ou qui l'énervent ou qui lui font mal après? Donc, il faut commencer par la douceur, la tendresse. Donc, je dois dire que ce que je fais, j'ai beaucoup occidentalisé mon massage à ce niveau-là. Parce que je me dis, je vis dans un contexte où les gens... Ça peut choquer les gens. Donc, moi, je l'ai adapté à moi, à ce que j'ai au fond de moi.
Donc là, en l'occurrence, c'est la tradition africaine qui est allée à la rencontre
des
de
autres.
L'Occident. C'est pas l'inverse.
Exactement. Parce qu'ils ne comprendraient pas autrement.
Est-ce que vous avez l'impression, vous, Hermine, dans votre travail, que c'est dans ce même sens que vous allez? Est-ce que c'est aussi la tradition africaine qui va vers l'Occident ou bien est-ce que c'est le contraire?
Ça va vers l'Occident, mais ça répond à un besoin qui s'intensifie. Parce qu'il y a quelques années en arrière, je me serais mal imaginé en train de parler de la médecine traditionnelle dans une radio occidentale. Je veux dire qu'on était tellement habitués et on voulait qu'on soit habitués à consommer le bonheur qui vient d'ailleurs, que l'idée ne nous serait jamais venue de se demander de quoi vivaient nos ancêtres qui n'avaient pas ces paquets de McDonald's, de comprimés périmés qu'on donne pour le bien-être des nègres. Bon, excusez-moi.
On sait que c'est une réalité. Il n'y a pas besoin de s'excuser.
Ceci dit, il y a des cas. Marie-Noël a cité un exemple où c'est cette sorte de démarche en but de rencontrer l'autre d'une manière, je dirais, plus juste, plus équitable, c'est fait. Bon, il y a eu une tentative au Sénégal qui, me semble, n'a pas résisté autant. Mais il y a quand même des situations où ça se passe en douce, sans que ça soit officiel. C'est le cas en Consamba quand les infirmiers des hôpitaux sollicitent des guérisseuses du quartier pour faciliter les accouchements. Parce que chez nous, l'accouchement par césarienne n'est pas... Je veux dire que de toute façon, on n'a pas les moyens de se l'offrir automatiquement comme c'est le cas ici où dès que la femme a les premières contractions, on commence à aiguiser les bistouris pour voir si on augmente seulement la voix ou si l'enfant se tourne mal et qu'on coupe directement le ventre. Bon,
mais je vous dirais,
ça a des avantages. Ça a des avantages, mais on s'en passe aussi. On s'en passe aussi en Afrique grâce à ce type de coopération. Où avec le magnétisme de la main, un guérisseur peut remettre le bébé à naître dans une position favorable tant pour l'enfant que pour la mère.
Mais je vous dirais, ce que vous décrivez là par rapport à l'Afrique, c'est quelque chose qui existe aussi chez nous. Je sais que dans le Jura ou à Fribourg, on appelle dans les hôpitaux aussi la femme qui a, ou l'homme qui a le don d'arrêter les hémorragies, par exemple. Et ça se fait aussi clandestinement, parce qu'évidemment, officiellement, la médecine traditionnelle ne peut pas admettre l'intervention de quelqu'un qui a le don.
Enfin, quelque chose d'universel.
Bon. C'est quoi, la clandestinité?
La clandestinité des traditionnels. Bon, à l'inverse, ces guérisseurs de la région de Nkonsamba, il y en a qui conduisent les malades à l'hôpital, pour certains cas, vraiment sans hésiter. Bon, dans ma pratique à Genève, puisque après tout je n'habite pas le Cameroun, dans ma pratique à Genève, je suis co-thérapeute dans un centre d'endopsychiatrie dirigé par la doctoresse James. Ça veut dire qu'on conduit vers nous des patients d'origine étrangère, dont on suppose que leur mal, que l'origine de leur mal est dans une autre culture que celle qui leur est ambiante aujourd'hui. Bon, là aussi, je donne ce que j'ai d'Africain en moi. Et autrement, je suis superviseuse pour celles qui, pour mes collègues qui viennent vers moi, qui ont des patients africains et qui viennent vers moi pour demander conseil. Ça, je le fais volontiers. Je le fais aussi avec l'hospice général. J'ai des heures de cours à l'hôpital Bel Air. Et je salue mes élèves infirmiers s'ils m'écoutent en ce moment. C'est tout, quoi.
Viviane, qui nous a rejoint, avait envie de vous poser une question justement sur l'ethnopsychiatrie.
Oui, parce que j'ai lu le livre de Toby Nathan, qui est ethnopsychiatre en France.
Qui était notre invité hier et qui n'est pas venu.
Ah bon? Et je trouvais aussi très intéressant cette approche de l'ethnopsychiatrie, parce qu'effectivement, il y a, bon, vous avez parlé du besoin ici d'un autre rapport à la médecine, mais il y a aussi tout le problème des gens d'ailleurs qui sont ici, et qui, eux, vraiment viennent d'une autre culture, d'une autre tradition, et pour qui c'est vraiment important de développer ces outils. C'est pas seulement pour les Occidentaux,
absolument.
Ça c'est très important
absolument.
Pour les gens d'Afrique qui sont en Europe, de pouvoir aussi trouver cette écoute.
Absolument, et je dirais que c'est là que je vois le cas le plus dramatique de certains Africains, parce que, bon, en Afrique, le problème de l'individu, c'est le problème du groupe, comme on l'a dit depuis le départ. Mais ici, en Europe, on se heurte à des situations qui ne nous permettent même plus d'avoir confiance aux voisins. Et il y en a qui meurent seuls dans leurs appartements. Et ceux qui ne meurent pas parmi eux, il y en a qui sont tellement déracinés. Et des fois, les parents sont tellement chrétiens que ça ne sert à rien de leur parler de l'arbre de paix ou même pas de l'ancêtre. Ça n'existe pas. Et bien sûr, l'enfant en souffre d'une manière ou de l'autre, à moins que dans ses propres démarches, il ne trouve un type de compensation qui répond, comme disait Marie-Noël, à certains problèmes que les parents auraient dû se poser depuis longtemps. Et ça, ça existe. On ne peut pas le nier. C'est tous les jours qu'on se heurte à des choses comme ça. Donc, mes chers Africains, cherchez vos origines. Ça ne sert à rien de... N'égorgez pas les moutons ici parce que le boucher va porter plainte. Le concierge aussi. Mais trouvez un moyen de dialoguer, fût-ce avec vos parents ou avec vos grands-parents. Vous en avez besoin, moi aussi, du reste.
Marie-Noël,
oui, je peux juste ajouter quelque chose. Je crois que ce que Hermine dit, c'est vraiment la base de toute harmonie avec soi. Et c'est vraiment très important. Et je crois que c'est aussi valable pour nous, Européens. Recherchons nos origines et ne faisons pas d'exotisme, parce que nous aussi, nous avons cette richesse. Je crois que c'est important de les retrouver aussi.
Parce que donc, vous partiriez du point de vue que cette conception du monde, elle existait et qu'on l'a perdue.
Tout à fait. tout à fait, avec l'avènement de la technologie, consommation à tout prix, science, etc., donc qui sont liés au rationnel, je dirais, à l'esprit cartésien, tout ça, c'est devenu quantité négligeable et ça s'est complètement perdu. Et à nous de le retrouver.
Mais je pense que toutes les trois, vous avez dû être confrontées malgré tout, quand vous dites un certain nombre de choses, à des gens qui sans arrêt vous disent « Mais enfin, écoutez, arrêtez, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu me dis qu'on peut faire arrêter la pluie parce qu'il va y avoir des obsèques, tu me dis qu'on va pouvoir soigner des règles douloureuses avec de la peau de serpent, mais enfin, c'est du charlatanisme. » Je suppose qu'il y a des vous avez en face de vous des gens très incrédules. Hein, et qui donc, qu'ils soient d'ailleurs d'ici ou d'ailleurs, comme le disait Hermine, parce qu'ils ont perdu le lien avec leur origine. Face à des gens aussi incrédules que ça, et c'est peut-être juste comme ça que j'aimerais que nous terminions, avant de réapprofondir un certain nombre de sujets que vous avez abordés, qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Parce que là, hein, vous parlez, vous n'avez pas en face de vous les incrédules. Moi, j'ai envie de savoir. Alors, je vous pose toutes les questions que je peux, mais je n'ai pas envie de jouer à l'incrédule. Alors, mais je sais qu'il y en a. Et je sais que parfois, ce serait peut-être utile de jouer à l'incrédule. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là, chacune d'entre vous ?
Donc, mes incrédules sont surtout des Africains qui me reprochent de parler de la médecine alors que je ne suis qu'une psychologue, ou bien de parler de la thérapie traditionnelle alors que je ne fais que des conférences. Donc, c'est ce qu'on me reproche. Mais par rapport à la façon dont je sens ma vocation, comme Betty l'a senti la sienne, ou bien comme Marie-Noël a senti la sienne, c'est rien du tout. Je veux dire que je reçois des téléphones des gens qui, pendant 30 minutes, me parlent de mon livre. Vous voyez ? Quand ça vous arrive une fois par année, et qu'à côté de ça, les gens essayent de vous ignorer sans réussir, pour moi, c'est... Je veux dire que ces gens-là sont vraiment minimes. C'est peut-être la petite chose qui confirme la règle, quoi. Pour moi.
Donc vous ne cherchez pas à les convaincre ou à leur répondre ?
Je ne les sens même pas. Vraiment, pas parce que je les minimise. Je veux dire que l'argumentation qu'ils donnent, ça répond, c'est rien du tout. Mais dire que je ne suis pas médecin et que je ne peux pas parler de la médecine africaine, vous voyez vous-même que c'est assez bidon comme histoire.
Betty, vous avez été plus touchée par les gens qui, hein, visiblement, vous êtes moins protégée que Carmine a pu le faire, je ne sais pas. Aujourd'hui, avec toute l'expérience que vous avez eue, comment vous répondez aux incrédules, aux gens qui vous remettent en cause dans votre travail ?
Ceux qui me remettent en cause, soit je ne dis rien, je leur dis de toute façon, je fais ce qui vient de moi parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et moi, pour l'instant, j'ai eu cet appel et je dois faire du bien aux autres, à commencer par les enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. Et puis, même à nos frères et sœurs africains, moi, je pense qu'on ne devrait pas perdre cet art traditionnel de masser les bébés. Parce que même avant, l'Africain ne recherchait pas forcément le contact arrivé à l'âge adulte. Maintenant, il y en a qui commencent à chercher. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu le contact avec leur corps et avec eux-mêmes. Ah, donc, il faut rester en contact avec soi-même d'abord.
Y compris en Afrique, Betty, ça se perd ?
Ça se perd, le massage des bébés, même en Afrique. C'est fou, parce que les jeunes femmes accouchent en ville, on ne masse plus le bébé et tout, alors que c'est une autre richesse, c'est notre force. On arrive à l'âge adulte, on assume certaines responsabilités et ça vraiment, ça nous aide au fur et à mesure, on peut rencontrer. C'est une force. Si on perd le massage étant bébé, bon, c'est vrai qu'ici, ça a une autre connotation, mais il ne faut pas perdre ça. C'est très important. C'est tout.
Et vous, Marie-Noël, alors, oui, face aux incrédules ?
Je crois que c'est important de surtout pas se laisser déstabiliser, je veux dire, il n'en est pas question, étant donné qu'une cohérence intérieure avec nous-mêmes, parce qu'on vit ce que nous pratiquons tous les jours, c'est ça qui est important. Tant pis, on s'aime un petit peu, quelqu'un aura entendu cette émission, et nous traitera de charlatane, mais ça ne fait rien, peut-être dans 10 ans, ils vont se réveiller, et tout d'un coup, ils verront qu'il y avait peut-être quand même pas mal de bon sens dans ce qu'on disait.
Alors, je vous remercie vivement toutes les trois d'être venues nous parler déjà longuement aujourd'hui. Comme on le disait tout à l'heure, j'espère que nous aurons l'occasion de réapprofondir certaines questions, ou même de toucher certaines questions. On n'a pas du tout parlé, par exemple, la très grave question de l'appropriation par les multinationales de plantes médicinales qui existent en Afrique et que l'on veut, qu'ils veulent breveter à leur compte et qui fera que peut-être d'ici quelques années, les guérisseurs traditionnels ne pourront même plus utiliser les plantes qu'ils ont chez eux, de chez eux. Alors c'est une grave question, d'ailleurs qui ne concerne pas que les plantes médicinales, malheureusement. Et d'autres questions que vous avez abordées qu'il serait bon de réapprofondir. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Merci encore de nouveau à toutes les trois. J'aimerais donc préciser, mais peut-être je le laisserai faire par Marie-Noël, mais très vite, qu'il y a un numéro spécial du journal, du magazine Regard africain qui est sur cette question-là.
Oui, dans le numéro 38 qui va sortir incessamment, nous aurons un dossier spécial sur médecine et santé en Afrique qui peut être commandé en téléphonant au 738 54 13 à Genève.
Un peu plus lentement,
738 54 13 à Genève.
Voilà, Regard africain, numéro spécial sur la médecine traditionnelle africaine. Je ne sais pas si, Hermine, vous avez un rendez-vous particulier à proposer pour les gens qui s'intéresseraient et qui voudraient venir à un pas tous les rendez-vous du symposium. Il y en a un que vous suggérez, vite fait, je m'excuse, il reste
La journée de vendredi ou de samedi où plusieurs choses sont regroupées.
Plusieurs
intervenants, plusieurs films aussi, y compris le mien, sur la guérison, sur la médecine africaine.
Rappelons-le, qui porte ce titre si beau et que j'aimerais bien nous puissions y retourner, Une folie qui fait du bien. De même que le livre écrit par Hermine, Le fruit de ses recherches, Entre l'angoisse et l'arbre de paix.